Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no. E va bene lo so, oh oh. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina.
Ma tu non piangere. Non si.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Allora, personne me présente? E moi, allora, le plus beau?
Michel,
le plus beau 9h30?
Allora?
Ah, ma come? T'as vu? Ils font leur partie, puis après, via. Ils vont boire le café, les petits chocolats de Francesca Paranella.
Qu'on remercie d'ailleurs.
Ma dai, va. Tutto bene?
Insomma,
on n'a pas notre insomma de Renatino qu'on salue, qu'on aura la semaine prochaine. Voilà, tutto va bene. Voilà, on a eu que beaucoup d'informations, et c'est bien sur le cinéma et sur la culture italienne. Je vais vous en donner d'autres. Gla, 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 bon chauffage à fond.
Ouais.
Ce matin, glacial.
Ah, gla, gla, quel frigo.
Gla, gla, gla. Restez bien au fond de votre lit à écouter le 93.1 et Cappuccino. On va vous réchauffer le cœur jusqu'à 11h avec notre invitée Eliana Cocchi, productrice et documentaire sur Arte, et qui nous contera la vie de cette famille Cocchi et de sa sœur Lucienne Filippi, artiste peintre. On salue Nathalie qui est là aussi maintenant avec nous, qui est bénévole de la première heure du Cercle Leonardo da Vinci. C'est elle qui nous a fait connaître sa petite famille très sympa. Mais là tout de suite, Cathy Fuoco nous explique, ça c'est très important parce que je suis sûr qu'en Italie, vous connaissez le système. En Italie, pourquoi on donne des sopranomi? Tu vois, c'est toujours un peu stranissimo.
Bienvenue dans la Minute à l'italienne. Laissez-moi vous amener dans un voyage à travers les époques où les coutumes et les habitudes sont transmises de génération en génération et font partie du quotidien comme un espresso,
un biscotto ou une pasta carbonara, un panino
ou bien un tiramisu. Une excursion rapide dans la culture italienne où j'explique avec humour et bienveillance les raisons derrière certaines de nos coutumes et habitudes très particulières. Aujourd'hui, dans la Minute à l'italienne, on plonge dans un art bien particulier, celui de donner des surnoms. Parce que chez les Italiens, personne ne s'appelle vraiment par son vrai nom. Et cette habitude, elle vient de loin. Dans les villages en Italie, tout le monde avait les mêmes noms. 3 Giuseppe, 4 Maria et 2 Carmela. Alors, on devait les différencier. C'est là que les soprannomi sont devenus essentiels. Un petit surnom pour savoir de qui on parle.
Pietro il macellaio.
Pietro le boucher.
Maria la bambolina.
Maria la poupée. Et parfois, c'était pas très flatteur.
Antonio l'asino.
Ben oui, Antonio l'âne. Chez nous, par exemple, mes oncles Giuseppe, ils pourraient s'appeler Peppino ou Pino ou Pepe. Mais surtout pas Giuseppe. Ben non, car personne ne saurait à qui on s'adresse exactement. La même chose pour ma tante Ginette. Son vrai nom, c'est Gina. Mais puisqu'il y en avait déjà deux, on va l'appeler Ginette. C'est mélangeant, hein? Chez nous, le surnom, c'est pas juste un nom comique. C'est un badge d'identité, un clin d'œil à la famille, au passé, au village. Moi, petite, j'étais pas Rosina ni Bambina. Non, non. Moi, j'étais...
Terremoto.
Oui, oui. Tremblement de terre. Je comprends pas tellement pourquoi, là. Ce qui est beau dans les soprannomi, c'est que c'est une façon de dire « Je te connais depuis toujours. Tu fais partie des nôtres. » Alors, si un jour, quelqu'un vous appelle par un nom que vous ne comprenez pas... souriez. C'est peut-être un bel héritage que votre famille vous a laissé. C'était Cathy Fuoco et on se retrouve bientôt pour une autre Minute à l'italienne. Ciao! À la prossima!
Ah! Alors, quelques petites infos que j'avais déjà données la semaine dernière, mais je redonne parce que c'est des informations importantes, hein, donc c'est une bonne nouvelle pour les Italiens. La carte d'identité Cartaccia donc pourra être remplacée par la carte format carte de crédit, hein, là je précise, carte de crédit et non pas numérique, en Italie à partir du 1er juin. De plus, les plus de 70 ans, quand ils l'auront remplacé donc par la carte de crédit, format carte de crédit, sera valide à vie. Voilà, parce que c'était toujours compliqué en Italie, enfin en France, pour pouvoir changer sa carte d'identité. Là, on pourra au moins le faire en Italie quand vous irez l'été. Par contre, une nouvelle importante aussi, c'est que les parents qui ont des enfants mineurs doivent absolument les déclarer au consulat avant mai 2026. Sinon, ils ne seront pas considérés comme italiens après. Donc, il faut absolument les inscrire au stato civile du consulat. Alors, avec Renato, on essaie d'avoir le consul le 4 janvier pour la nouvelle année. Donc on aura sûrement le consul. Il nous expliquera un peu toutes ces choses-là et on le remercie. Alors, deux nouvelles aussi qu'on a déjà données, mais bon, qui peut piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Le 27 novembre, il y aura une Roberta à Paris au Théâtre de la Boussole. Pour réserver, vous téléphonez au 01 85 08 09 50. Et puis on a aussi notre ami Stéphane Reich qui nous propose Daron Noir, c'est le vendredi 19 à 19h. Et lui, c'est au Théo Théâtre qui se trouve au 20 rue Théodore Deck dans le 15e pour réserver 01 45 54 007. Là, c'est pour se marier, hein, c'est pour être vraiment bien en forme. Et puis aussi, également, on rappelle que le spectacle était une Boss Cat reprend du service. Donc, ça sera le 12 et le 13 décembre à l'Auguste Théâtre, 6 Impasse Lanier, dans le 11e, métro Philippe Auguste, voilà. Là, on a une triste nouvelle, malheureusement. Vous avez sûrement entendu vendredi que la belle Ornella Vanoni n'est plus. Elle avait 91 ans, elle est décédée vendredi. Elle avait une voix extraordinaire. Elle avait commencé sa carrière en 1956. Elle avait sorti 56 albums, 60 millions de disques vendus. Elle avait une très belle voix. D'ailleurs, les Français l'appelaient l'italienne à la voix de velours. C'était une chanteuse qui, vraiment, avec Mine, a été la plus grande chanteuse des années de 50 à 70.
Autre mauvaise nouvelle, les sœurs, les jumelles qui se sont donné la mort ensemble.
Oui, aussi, ils avaient dans les 90 ans,
aussi,
je crois.
Oui, mais pas très jeunes.
C'était des Allemandes, mais qui avaient fait énormément
de carrière
en Italie. Tout le monde connaissait dans les années 50-60. Voilà, on écoute Ornella Vanoni qui nous chante l'appuntamento.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
La belle Ornella Vanoni qui nous a quittés vendredi, 91 ans, et qui avait une voix extraordinaire. Vous êtes bien à l'écoute de Cappuccino sur le 93.1, comme l'a dit notre ami Enrico Mastrogiovanni, qu'on salue, Baci, et puis également sur le DAB sur Internet. Et le téléphone, c'est le 01 40 24 29 29. Ça, j'ai tout dit, toute la promotion, là, tout d'abord. C'est bon maintenant. Alors, nous sommes avec Eliane Coq qui, bonjour. Bonjour, merci d'être parmi nous ce matin pour nous parler de votre famille émigrée de Pontremoli. Vous étiez deux sœurs et un frère au parcours tout à fait différent. Grâce à Nathalie, votre fille qui est avec nous et qu'on salue. Alors, déjà pour commencer, parlez-nous un petit peu de vos parents, parce que bon, voilà, vous êtes la suite évidemment de vos parents. Comment ça s'est passé quand ils sont venus de Pontremoli? Expliquez-nous un peu. Alors, Eliane, on a un petit souci parce qu'on n'entend pas ta voix. Donc, ce qu'on va faire en attendant que Enrico réussisse, alors tu vas venir vers moi. Tu vas venir vers moi et on va prendre... Non, non, celui-là, on en parle. Oui, oui, un autre micro parce que malheureusement, celui-là, je ne sais pas, il y a un petit souci et on n'arrive pas... Viens par là, ici. Voilà, viens. Là, on va être côte à côte, là. Hein. Sur les vidéos, ça va jaser. Hein.
C'est un plaisir. Heureusement que mon mari n'est pas là.
Alors, si tu peux recommencer.
Alors, voilà, nous venons de Toscane. La famille Filippi vient de Toscane. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais non, ce n'est pas possible. La Toscane, Pontremoli n'est pas en Toscane. Pontremoli est tellement à la pointe extrême de la Toscane, au nord, que ce n'est pas assimilé à la belle région toscane de Florence et du Chianti. Donc, évidemment, ses parents viennent de Toscane, ils ne s'en glorifiaient pas. Je ne sais même pas s'ils connaissaient vraiment l'histoire de la Toscane. C'était des gens pas de la montagne, puisque ce n'est pas la montagne vraiment, c'est les Apennins, mais c'était plutôt des gens des collines, des paysans, des métayers, enfin bon, des gens assez pauvres, qui avaient peut-être fui l'Italie pour ça ou pour d'autres raisons.
Tu ne sais pas les raisons
Disons
quelle année ?
Alors, eux ont dû partir dans les années 25. Le père, bien avant, parce que lui, il avait fait un repérage en France. Il avait fait un repérage, il était parti par Mandelieu, la Provence. Et il avait rencontré des cousins, il était passé par la Corse sans ses papiers. Enfin bon, c'était ces émigrés dont on dit tant de mal aujourd'hui, mais qui avaient beaucoup de courage et beaucoup d'énergie pour quitter leur pays, parce qu'il y avait la famille, ça comptait beaucoup, il y avait les traditions, tout ça. Mais le père était vraiment, lui, déterminé à partir. C'était l'Amérique, éventuellement, l'Argentine, ou peut-être la France. Et comme il y avait des cousins en France, il a choisi la France. Là, il n'avait pas de femme, donc il est allé recruter par l'intermédiaire de ses frères qui étaient restés là-bas, une cuisinière. Ça, c'était très important dans la famille. Et il en restait une à Pontremoli qui n'était pas encore mariée, qui était vieille. Elle devait avoir 22 ans, 23 ans sans être mariée, ce qui était vraiment âgé. Tout le monde s'inquiétait. Très maigre, une maigrichonne petite, brune. Et donc, il est rentré en Italie pour l'épouser. Le mariage s'est passé dans des conditions assez extrêmes parce qu'il y a eu un mariage évidemment civil dans la mairie de Pontremoli et le mariage religieux a été reporté au lendemain. Alors ma mère évidemment n'a pas voulu dormir avec lui le soir même puisque ce n'était pas un mariage religieux. Alors elle était relativement, on va dire, mystique. Alors ça s'appelle chrétienne, mais bon, c'était un peu flou dans sa tête. Mais alors lui était complètement mécréant. Donc c'était un mariage un peu improbable d'un grand monsieur aux yeux bleus qui avait plutôt l'air allemand avec cette petite femme brune qui avait plutôt l'air chinoise, étrangement. Une petite grosse avec les yeux bridés, des pommettes hautes, enfin bon. Donc nous sommes issus de ce couple improbable qui a monté un restaurant à Mandelieu. Quand même, qui s'appelait Le Franco-Italien.
Ils n'étaient pas sur.
Ils étaient. Sur lui était très entreprenant au départ. Et ma sœur est née là. Mon père, évidemment, était extrêmement. Non seulement il était déçu, mais il était en colère que sa femme lui ait donné une fille et non pas un fils aîné. Donc il voulait l'acheter par la fenêtre. Alors ma sœur est née dans ces conditions-là. Mais elle était très jolie, elle avait des yeux bleus, blondes, tout ça. Donc elle a plu aux clients du restaurant. La mère faisait une cuisine italienne trop riche, c'est-à-dire qu'elle les a mis en faillite, en gros. Mais elle a eu beaucoup de clients. C'était une clientèle extraordinaire. Et donc, ça a duré un an. Et au bout d'un an, le père a dit « Qu'est-ce que je peux faire avec mes gros bras ?» Parce que c'était vraiment un colosse, on aurait dit un gladiateur. Alors, il y a de la maçonnerie à faire sur Paris. Et il est remonté dans la région parisienne. Il y avait des cousins aussi, comme toujours.
Et c'est comme ça qu'on a atterri.
D'abord, je crois, il était du côté de nos gens, enfin, comme tout le. Voilà, il a travaillé avec tous ces gens-là, évidemment. Et puis, peu à peu, ils ont trouvé un petit terrain à Villiers-sur-Marne. Il a construit son pavillon. Voilà, on était assez loin de la gare, mais on était à Villiers-sur-Marne, dans les champs. Ce qui correspondait à leur mentalité et à leur façon de vivre.
Alors, les chansons, c'est toi qui les as choisies. Donc tu as choisi pour commencer Paolo Conte, Via con me.
Voilà. Ah oui, j'adore. J'adore sa voix. Je ne comprends pas tout ce qu'il dit parce qu'on ne comprend pas tout l'italien dans la famille.
Mais on en parlera justement après de
voilà,
ça.
Voilà, voilà. Mais c'est Paolo Conte que j'aime, oui.
Via, via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful,
It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Da-di-do-di-do, chibom, chibom, bom. Da-di-do-di-do, chibom, chibom, bom. Da-di-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chibom, chibom, bom. Da-ti-do-di-do, chibom, chibom, bom. Da-ti-do-di-do.
Et du coup, il paraît que mon micro marche pas, donc je suis obligé de changer encore de place.
Bah, vous, bah Michel,
oh là là,
voilà, le destin Eliane, nous rapproche. Le destin nous rapproche.
Eliane a fait voilà. Exprès. Vous allez voir sur les vidéos, on est côte-côte, quoi. On est côte-côte.
Oui,
côte, hein.
je pense que c'est organisé, excusez-moi.
Bah, mais... si, oui, c'est oui, toi oui, les ondes hein, qui a fait
oui,
que...
Toujours comme ça avec moi, c'est toujours comme ça.
Alors,
pour ça donc... que j'ai pas vu mon mari.
Ah oui, ça, il devait venir. On le salue, on le salue. Et donc, justement, donc, tu nous disais que tu parlais pas très bien l'italien, parce qu'il y avait aussi chez vous quelque chose de très important, il fallait être intégré et on parlait pas l'italien, parce que
oui,
vous deviez être carrément des Français de souche, pourquoi ?
C'était plus qu'intégré, c'était vraiment assimilé, hein, comme on dit maintenant, assimilé, parce que la pauvre mère, c'était pas des gens stupides du tout, hein, ils avaient pas peut-être de culture, et, ni même d'études, mais... ils avaient énormément de qualité, de curiosité, je pense. Enfin, le père un peu moins que la mère, mais la mère était très curieuse. Et donc, elle avait appris, avec son oreille, à parler français. Il y avait eu des confusions, évidemment, quand on lui avait proposé un gâteau. Elle avait refusé de prendre un chat. Bon, enfin, il y avait des choses comme ça qui faisaient rire la famille. Mais elle voulait parler français. Elle lisait des livres de cuisine en français, puisqu'elle était passionnée de cuisine. Donc, le dictionnaire Larousse était au milieu. Enfin, c'était le grand livre que nous avions. On n'avait pas beaucoup de livres. Et le père, lui, parlait comme il pouvait. Il faisait beaucoup de fautes. Et il en a fait jusqu'à la fin de sa vie. Mais nous, les enfants... on n'a jamais entendu nos parents parler italien entre eux, étrangement.
Et pourquoi cette, est-ce que tu
je crois que le père ne voulait pas revenir en Italie. La mère avait une nostalgie de son pays, des goûts de tous les produits italiens qui sont toujours plus forts, meilleurs qu'en France. Même le café, elle prétendait que le café était bien meilleur. Et quand on est allé en Italie en vacances, une fois, elle a ramené tous les ingrédients pour faire le même café que les oncles et tantes italiennes. Eh bien non, il n'avait pas le même goût non plus. Elle disait que c'était l'eau.
Oui, l'eau, souvent.
Oui, elle disait que c'était
aussi,
l'eau.
Souvent, on dit oui, que l'eau est voilà. Calcaire, qui n'est pas
voilà,
assez calcaire.
Calcaire
que,
oui, calcaire. Fait, ouais. Mais à part ça, bon, c'était... elle recevait la Corriere à Del Domenico,
de la Sera,
je sais pas, ou Della Sera, ouais, c'est ça. Puis la Domenica del Dimanche, je me souviens, c'est ça. Et c'était formidable parce qu'elle le lisait, elle nous le lisait un peu. Donc on a entendu beaucoup l'italien. Enfin, du moins ma sœur et moi. Mon frère, c'est autre chose. Mais ma sœur et moi, on a entendu. Donc, on entend l'italien. On le comprend par l'écoute uniquement, mais pas par le vocabulaire, parce qu'on ne l'a pas appris à l'école après. Mais je pense que le père n'avait vraiment pas l'envie de retourner en Italie, où les frères, c'était un petit peu... Donc Camillo et Pépone, il y avait des frères qui se battaient, il y en avait un qui était communiste, l'autre qui était qui avait fait les pèlerinages à Rome à genoux. Bon, donc voilà, il y avait des tensions que je connais pas malheureusement. On n'a pas poussé très loin, comme beaucoup de gens. Et j'encourage.
Mais voilà. C'est trop tard. Après.
J'encourage souvent, tous vos auditeurs pareil, hein. À demander à leurs parents de
plein
leur
de
vivant,
choses,
bombarder, prendre ouais. Des références, oui, des dates, ouais, même ouais. L'école, qu'est-ce qu'ils ont fait comme... Parce qu'on ne sait rien.
On ne sait rien.
N'est-ce pas, Nathalie
ouais, voilà. Même Nathalie, pour nous, elle doit connaître avec toi.
Non, pas vraiment. Pas vraiment.
Ça va être l'occasion, là, justement.
Voilà, jour. Alors, à Noël. Hein,
alors, on est là aussi pour parler de votre parcours à vous et aussi
et
de votre sœur, votre sœur, Lucienne Philippi, donc coq mariée Philippi, et qui est une artiste, qui était une artiste très connue. Parle-nous un petit peu de son parcours assez rapidement.
Oui. Alors, ma sœur, elle, évidemment, dès l'enfance, avait des prédispositions probablement, en tout cas, je dis pas artistique, mais à la rêverie. C'est-à-dire que dans une famille où tout le monde devait travailler d'arrache-pied au jardin, à la cuisine, enfin bon, il ne fallait jamais s'arrêter, même pas lire un livre, c'était presque une récréation qu'on ne devait pas se permettre. Elle, c'était une rêveuse. Moi, j'ai 15 ans de plus qu'elle, donc je ne l'ai pas connue à cette époque-là, de moins qu'elle, pardon, oui, de moins. Mais donc, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé, mais tout le monde me disait, c'est une rêveuse, voilà, elle était un peu dans son monde, elle se trompait de tout, de chemin pour rentrer de l'école, etc. Mais il s'est passé une anecdote assez amusante, c'est qu'un jour, la maîtresse d'école a demandé un dessin pour le lendemain. Et ma sœur était petite, elle n'avait pas l'idée de faire quelque chose. Ma mère qui brodait lui a fait le dessin. Et c'était un dessin de bouquet de fleurs, très très précis, presque comme une miniature. Comme elle savait le faire, elle, pour sa broderie. Et ma sœur, elle n'a pas dit que c'était sa mère. Elle l'a montré à tout le monde. Et l'école de Villiers-sur-Marne, la directrice est venue. Tout le monde a dit, c'est tellement extraordinaire. C'est une artiste. Et donc, elle s'y trouvait, cette vocation d'être artiste. Je pense que c'est venu de la glorification de quelque chose qu'elle n'avait pas fait, mais qu'elle savait faire, parce qu'elle a prouvé quand même qu'elle savait le faire. Donc, elle n'en a pas démordu. C'était une têtue, hein. C'était quelqu'un de très volontaire. Donc, à partir de là, elle a dessiné, elle a demandé une boîte de dessin, de peinture, quand il y avait un anniversaire ou je ne sais quoi, parce qu'on ne les fêtait pas dans la famille, mais dès qu'il y avait un événement, on lui offrait quelque chose de peint. Et elle peignait, elle dessinait, elle dessinait.
C'était quel genre de tableau ?
Alors, dans sa première époque d'enfance, je ne sais pas, parce qu'on n'a rien conservé, mais quand elle a passé son brevet à Nogent, mes parents lui ont dit d'aller travailler, hein, parce que c'était la méthode à l'époque dans ces familles-là. Donc, elle a dit, je ne peux pas travailler puisque je veux être peintre, artiste peintre. Alors, un maçon et une dame qui faisait de la cuisine, ça n'allait pas du tout. Il la voyait mariée avec un carreleur, puisque le carreleur était l'aristocrate de la maçonnerie. Ils arrivaient avec des gants blancs. Enfin, moi, je m'en souviens bien. Donc, ça a été assez douloureux pour mon père d'accepter le destin de sa fille. Et elle a trouvé un apprentissage à Villiers-sur-Marne avec un monsieur qui était célèbre, mais qui était venu après sa retraite, en fait, pour donner des cours, qui s'appelait Luc Darpy. Luc Darpy était un peintre qui avait été connu, qui avait été primé, et qui voulait se faire un peu d'argent avec des cours de dessin et de peinture. Donc, il y avait un atelier à Villiers qui était très beau, un atelier très haut de plafond, au nord, avec des grandes baies au nord pour pas que le soleil rentre sur les tableaux. Enfin, bon, c'était très, très beau. Mon père l'a emmené là, ouais. Et là, il y avait un tableau que j'ai à la maison. Monsieur Darpy peignait des femmes nues, évidemment, qu'il installait à côté de son poêle.
Ah oui, le papa, il a dû dire waouh.
Et alors, ça a été affreux. Alors, il venait la porter le matin, il la reprenait le soir. Ouais, enfin, bon, ça a été jusqu'à la majorité à 21 ans. Ça a été assez difficile. Mais elle a appris grâce à Monsieur Darpy, qui avait beaucoup de commandes encore. Il faisait les décors de Noël, par exemple, des grands magasins, des Galeries Lafayette, etc., ou de l'opéra. Elle a appris à peu près, je dirais même, toutes les techniques qui ont été en plus amplifiées par le fait qu'on l'avait inscrite à la Grande Chaumière. Et comme elle arrivait à gagner un petit peu presque sa vie, en tout cas, elle ne payait pas les cours. Alors ça, c'est quand même arrêté, parce que M. Darpy était âgé.
On va avancer un petit peu.
Voilà. Hein. Allons-y.
Donc, elle faisait aussi des fleurs. Hein. C'était beaucoup de bouquets de fleurs.
M. Darpy avait un jardin, comme tout le monde à l'époque. On avait un petit jardin et elle peignait les roses jardin, les bleuets et toutes les fleurs du jardin.
Alors, on va faire une pause musicale et puis on va revenir à Lucienne Philippi. Là, tu as choisi Ricky Poveri, Sara Perchettia. De l'amour, toujours.
Alors, toujours. Ça, c'est éminemment italien.
l'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
E vola, vola, si sa,
sempre filando si va.
E vola, vola con me,
il mondo è matto perché.
Se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te.
E vola, vola, si va.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous êtes à l'écoute de Cappuccino et sur le 93.1, on est avec Eliane Cocchi qui nous parle de Lucienne Filippi, mais également de son parcours, de ses parents. Et donc, on va terminer avec cette sœur qui donc réussit une belle carrière malgré que les parents étaient un petit peu réticents. Et puis, également, il y a une chose qui se passe, c'est qu'il y a mai 68 et donc après, elle a été obligée de changer un petit peu ses dessins.
Voilà, ça a été une rupture, une césure, comme votre association
oui,
s'appelle.
Oui, si on est aussi.
Voilà,
césure,
c'est ça, voilà, c'était une césure dans sa carrière. Parce que elle avait tellement appris le genre classique, qui est très difficile à apprendre, et que tous les peintres du siècle précédent, 1900, jusqu'à même à partir de 1800, ont évidemment tous appris, parce que c'était la procédure pour devenir peintre et pour devenir professionnel, peintre professionnel, hein, ce qui était important. Ce n'était pas des amateurs. Donc, elle a eu beaucoup de mal avec l'arrivée de mai 68, parce que les jeunes peintres qui venaient en concurrence dans les expositions peignaient totalement différemment d'elle. Et donc, lui faisait honte presque en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce tableau de fleurs, ce paysage, c'est un peu ridicule, la vie a changé. » Alors elle s'est dit « Oui, ils ont raison, quelque part, il faut que j'évolue. » Mais ça n'allait pas du tout avec sa nature. Elle faisait des miniatures très fines pour des antiquaires, elle faisait des portraits, tout ça. Bon, ça exigeait toutes les compétences qu'elle avait, pas de nouvelles compétences. Donc, elle savait, elle allait beaucoup dans les musées, donc elle avait vu les impressionnistes, les cubistes, etc. Mais elle-même ne se sentait pas, comment dire, l'aptitude pour faire ça. Mais elle a essayé, puisqu'elle avait la technique. Et ça a été raté. parce que évidemment, dès qu'elle s'est mise à l'abstrait, ça, c'était horrible.
Pas son truc. Non. Mais par contre, elle s'est tournée vers les catalogues.
Et alors, de toute façon, il fallait gagner sa vie. Parce que gagner sa vie avec la peinture, ça n'a jamais été évident, même quand on en faisait profession. Elle vendait déjà beaucoup de tableaux à Villiers-sur-Marne, il doit y en avoir partout à Nogent, tout ça, parce qu'elle faisait les bords de Marne, elle faisait des portraits, elle faisait des... La peinture était décorative jusqu'en mai 68, on va dire. C'est-à-dire qu'on pouvait en mettre une dans son salon. Les gens disaient, vous savez, je veux faire un fond rose, alors il faudrait des pivoines roses, etc. Alors ça la faisait rire, mais elle pouvait le faire, donc elle savait le faire. Et là, évidemment, ça a été une très, très grosse rupture, très difficile à vivre pour nous tous. Parce qu'elle qui était joyeuse.
Ça a très bien marché, puisque elle a fait des catalogues extraordinaires.
Alors voilà. Ça, c'était sa deuxième vie, en fait. Mm-hmm. C'était la vie pour gagner sa vie, ça, hein, puisque l'exposition qu'on a faite à Villiers-sur-Marne, grâce à la mairie Villiers-sur-Marne et à l'association Guillaume Budet, qui est dirigée par Daniel Abraham, voilà, et puis le musée historique de Villiers, parce que c'est une des peintres de Villiers, comme M. Larpy. Et c'est une peintre qui a été énormément primée pour sa peinture classique, hein, pour ses fleurs, pour ses paysages. Elle avait beaucoup de médailles, beaucoup. On a retrouvé ça avec Nathalie. On était un peu étonnés parce qu'elle n'en parlait pas. Elle en riait.
Hein, il y a eu une exposition il n'y a pas très longtemps.
Une grosse exposition pendant.
Avec le cercle d'art de Vinci, je crois.
Voilà, mais aussi, qui sont venus. Tout a été très charmant.
Est-ce qu'il y a des possibilités de pouvoir voir, parce que bah, évidemment pour les auditeurs c'est un peu abstrait tout ça, hein, même si elle n'aimait pas trop. Donc est-ce qu'il y a sur internet quelque chose,
c'est-à-dire qu'on a recollecté tous les tableaux qu'on a pu retrouver, ouais, dans les familles. Donc on a une petite somme comme ça, mais on a fait un diaporama qui n'est pas très réussi, qu'il faut affiner, et puis on prépare avec Nathalie une biographie imagée de ce qu'elle a fait, parce que nous-mêmes on a été étonnés. Peut-être il y a eu 300 œuvres à peu près, ou 400 même dans sa vie, et nous on en garde une centaine, c'est tout ce qu'on a, et le reste elle ne l'a pas photographié. Il y a rien, enfin il y a des traces un peu amateurs en fait de ces tableaux. Donc je ne sais pas trop, pour voir, il faudrait refaire une exposition.
Vous êtes très, très occupé, je sais, hein,
oui,
on en a parlé
peu, oui,
un peu beaucoup. Et donc, du coup, en fait, c'est peut-être ce qui vous attend pour les prochaines années, voilà, de mettre en image un petit peu pour que les gens se rencontrent. Parce que nous, on a vu des photos, on a vu tout ça.
Oui.
Donc, c'est très, 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 très beau, hein, ce qu'elle fait.
Oui, c'est
Mais c'est vrai
très,
qu'il faudrait peut-être un peu plus la mettre en valeur.
Oui.
Donc, ça viendra,
oui,
avec... Nathalie est toute jeune, Nathalie, elle va pouvoir le faire.
Je compte sur la famille pour perpétuer cette mémoire-là, parce que ça va très vite. Et puis, les tableaux, c'est des tableaux qu'on accroche nous chez nous, comme ça, qui sont... c'est des souvenirs de famille, en quelque sorte. Elle nous a peints au bord de la Marne, dans des pique-niques, dans des restaurants, tout ça. Donc, ça rappelle beaucoup de choses. Donc, on ne les cédera pas.
Oui, en plus,
on n'a pas envie de vendre le peu qu'on a d'elle. Donc,
en plus, si vous faites une exposition, ça peut être aussi sympa, parce que ça peut voir justement les bords de Marne.
Pourquoi ? Bien sûr, d'ailleurs, le peintre, voilà, le conservateur de Nogent-sur-Marne était intéressé, lui aussi, parce qu'il collectionne, lui, des tableaux du Val-de-Marne.
On va refaire une pause musicale, alors, juste pour terminer, juste avec elle, elle avait une phrase qui était très sympa, c'est « vivre pour peindre et peindre pour en vivre ».
Voilà, c'est le résumé de sa vie.
Lucienne Philippi.
Et c'est le résumé d'un artisan, c'est une fille d'artisan, artisan elle-même, pas peintre maudit, loin de là.
Alors là, on va écouter une chanson que vous avez choisie aussi, qui est importante pour vous, parce que c'est Serge Jani qui nous chante l'italien. Ça veut tout dire.
C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien, et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant de voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi la porte, il y a
non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, voleur équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui, mais je joue bien mal aux dames, tu le sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi ta porte, il n'y en a pas sa propre vue. Se ci sei, aprimi la porta, dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'italien, je reviens de si loin, la route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre, tu es là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance, c'est que tu n'as pas su ta chance. Mais ce n'est plus le même chien, et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, il n'y en a pas sa propre vue. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, il n'y en a pas sa propre vue. Se ci siete, aprite una porta.
Écoutez Allegre FM.
Alors nous sommes avec Eliane Koch qui nous parle de sa sœur, mais elle existe aussi, Eliane Koch, elle est là avec nous et elle a eu un parcours aussi assez extraordinaire. Elle nous a parlé un peu de son enfance avec ses parents qui ont émigré d'Italie, qui voulaient l'intégration, cette sœur qui a pris beaucoup de place dans cette famille. Mais vous avez aussi un parcours très sympa parce que finalement, vous êtes productrice de documentaires historiques pour Arte, entre autres.
Hein. Entre autres, oui, bien voilà. Sûr.
Dites-nous un petit peu, alors, comment ça s'est passé? Comment on devient productrice?
Oui.
De...
Ben, comment on devient productrice? On ne vient pas, c'est pareil. Ma sœur avait un don pour la peinture. Moi, je croyais que j'avais un don pour le dessin. J'aurais voulu faire aussi une carrière dans le dessin. Et puis, je suis peut-être plus pragmatique qu'elle. Je ne suis pas vraiment rêveuse. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un BTS, assistante de direction trilingue, un truc comme ça, où je m'ennuyais profondément. Mais je pensais que je plaisais à mes parents en faisant ça, parce qu'il fallait travailler, quoi. Bon, voilà. Donc, j'ai commencé comme ça et je suis tombée dans une boîte de publicité. Et là, j'avais des dons artistiques, moi aussi. Je les ai toujours, évidemment, même si je ne les exploite pas. Donc, je faisais des slogans pour eux, tout ça. Bon. Et la dame qui m'avait reçue avait un mari journaliste qui cherchait un grouillot pour leur nouveau magazine. C'était donc en 66. Donc, ça fait déjà un beau demi-siècle. Et ces deux journalistes étaient odieux, c'est-à-dire que personne ne voulait travailler avec eux. Ils étaient extrêmement prétentieux, antipathiques, caractériels, enfin tout ce qui faisait la beauté du journalisme de l'époque. Et je rentrais donc dans cette équipe-là. Et j'y faisais vraiment le travail le plus basique possible, mais je voyais qu'il y avait une faute, à savoir qu'ils ne savaient pas du tout dans l'administration de l'ORTF, puisque c'était encore l'ORTF, ce que coûtaient les choses. Et moi, mon papa me faisait faire les devis de sa maçonnerie. Donc j'ai toujours eu souci de savoir combien ça coûte et comment ça peut rapporter à quelqu'un. Parce que le pauvre papa, par exemple, il faisait des devis où ses heures supplémentaires n'étaient jamais comptées.
Il travaillait jour et nuit quasiment sur un mur, mais il disait « Oh là là, faut pas que je le dise parce que je vais avoir l'air de pas savoir le faire. » Alors il minimisait. Moi, je faisais cette vie et je voyais qu'il gagnait mal sa vie, ce pauvre homme. Et il travaillait tellement. Donc, j'ai commencé à essayer de comprendre combien coûtait une production pour envoyer une équipe au Vietnam. C'était la guerre du Vietnam à l'époque. Donc, ça s'appelle faire de la production. Alors, quand ces gens ont été chassés de l'URTF en 68, ils s'appelaient André Harris et Alain Séloui. C'était un couple très, voilà, très célèbre. Ils étaient odieux, ça, j'ose le dire. Ils sont morts maintenant, mais quand même de leur vivant, je leur ai dit. Et ils avaient besoin de quelqu'un comme moi pour organiser leur carrière.
Financer aussi.
Et pour savoir comment où aller chercher de l'argent. C'était vraiment des intellectuels purs et durs, l'un à gauche, l'autre à droite. Moi, ça m'allait très bien, parce que c'était au milieu. et donc, on a fait avec eux Le Chagrin et la Pitié, qui a été une grande œuvre qui a marqué un peu l'histoire de notre pays, puisque c'était avec Marcel Lefulse, le réalisateur. Donc, ça a été vraiment très important. Et à partir de là, leur carrière était lancée à eux, à l'extérieur de la télé. Ils ne pouvaient plus revenir à la télévision. Ils ont été bannis jusqu'en 81, jusqu'à ce que Mitterrand dise où sont ces braves gens là, qui avaient fait la révolution. Ils ne l'avaient pas fait, en fait. Ils avaient simplement montré à la télévision dans leur magazine mai 68. Et ça leur a été beaucoup reproché. Donc, voilà. Donc, on a fait cette carrière extérieure avec eux, avec André Harris et Alain Séloui et moi, tous les trois, parce que c'est petit. Mitterrand a mis Harris à la tête d'une nouvelle chaîne qui s'est appelée Arte après. Et il a mis Alain Séloui, il voulait le mettre à l'INA, la direction de l'INA. Et en fait, il lui a donné cette nouvelle chaîne qui s'est appelée Canal Plus après. Donc, moi, j'ai eu cette chance étrange d'accompagner vraiment une carrière étonnante de deux journalistes lambda, on va dire, qui grâce peut-être à leur engagement en 68, ont fait une carrière très étonnante. Et moi, j'étais l'enfant du divorce, après, parce qu'évidemment...
Elle dit qu'elle n'a pas une carrière intéressante.
Non, mais alors par exemple, ma chère sœur me demandait si j'étais toujours la secrétaire d'Alain Séduit, André Harris, toute sa vie, jusqu'à sa mort.
On n'a pas compris que vous aviez un peu
non,
évolué.
Et c'était très bien. Comme moi, je ne savais pas qu'elle avait des prix, et voilà, on parlait d'autres choses, on faisait la cuisine.
Combien de documentaires
Je crois qu'il y a 1000 heures, parce qu'il y a eu beaucoup de longs-métrages documentaires, essentiellement sur l'histoire de France contemporaine. Mais sur tous les genres, parce qu'il faut gagner sa vie. Et j'en ai encore. Et c'est pour ça que je suis encore occupée avec ça, parce qu'un documentaire, c'est une petite copropriété. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coproducteurs, beaucoup d'ayants droit, beaucoup de réalisateurs, d'auteurs, de gens qui ont écrit le commentaire, qui sont auteurs, d'images, qui ont des droits de photographes derrière, etc., ou d'archives ou de musées. Et donc, c'est un embroglio tel que quand on veut s'en séparer, moi, je voudrais bien m'en séparer, il y en a plein à la cave, il y en a partout, n'est-ce pas, Nathalie? Bon, il y en a à Billy, il y en a à Paris, il y en a partout. Je peux pas, parce que chaque ayant droit dit ah non, mais il faut pas, etc. Et donc, je suis encombrée des 24 derniers documentaires qu'on a fait en quelques années avec Alain Séloui, parce qu'André Harris lui est resté à Arte. Et Alain Séloui, lui, était beaucoup plus fantasque, c'était un aristocrate un peu Don Quichotte. Tiens, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et donc, lui, il allait de producteur en producteur. Puis après, voilà, on a gardé un stock de 24 documentaires dont il faut se débarrasser.
D'accord. Alors si là, j'ose dire. On va passer sinon, à la dernière chanson de cette interview très sympa. Alors, on rappelle que c'est dans des conditions un peu particulières, puisque si vous entendez le son qui part un petit peu et qui n'est pas toujours très net, c'est parce qu'on a un micro pour deux. On est parce qu'il fait froid, donc c'est peut-être...
On est très bien, Michel.
Tous les deux.
On est très, très bien.
Et là, c'est une chanson un peu engagée, mais avec une très belle voix d'Yves Montand, c'est Bella Ciao. Vous avez voulu cette chanson parce que...
Oui, j'aurais aimé aussi la chanson qui a fait scandale dans la famille, qui était celle que mon père a chantée pendant ma communion solennelle, qui était Bandera Rosa. En fait, il avait bu, il s'est levé pendant... Voilà, j'étais encore en costume de communiante et il a chanté Bandera Rosa. Ma mère a pleuré. Bon. Tous les Italiens cousins qui étaient ont pleuré. Enfin bon, ça a été affreux.
Bon, ben, voilà. On va écouter Bella Ciao en attendant.
J'ai pas osé. Bandera Rosa, j'ai pas osé.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Ah, ça fait plaisir d'entendre quand même cette chanson. C'est pas
Bandiera
Rosa, mais une somme. Merci Eliane Coqui de nous avoir parlé de Lucienne Filippi, de votre frère aussi. On n'a pas eu trop le temps, qui était maçon aussi. Donc une famille italienne, on va dire ordinaire, mais qui
tout
finalement a eu un parcours extraordinaire.
Français.
Alors voilà, et là on a Nathalie, parce que c'est elle qui nous a parlé un peu de votre famille, et on s'est dit ça serait sympa aussi de faire cette émission. Alors c'est vrai, il faudrait en faire plusieurs parce que vous avez un parcours tellement incroyable. Et Nathalie, on la connaît bien parce que Nathalie fait partie beaucoup des associations italiennes. Elle fait partie de la chorale Paola Nigi. Oui. Elle fait partie du cercle Leonardo da Vinci.
Aussi.
Toi, tu es très italienne.
Alors moi, j'ai repris un peu toute l'italianité que mes deux parents, pas ont cachée. Mais comme disait ma mère tout à l'heure, il fallait plus s'intégrer. Et nous, les enfants, en fait, on se sent à 100% italien. Ouais. Comme mon frère, ma sœur, et donc j'ai adhéré tout de suite à l'association Cercle Leonardo da Vinci. On a fait un monument à nos gens, et pour moi, on a remis à l'honneur mes grands-parents qui devaient marcher la tête basse dans les rues, et là, on les a remis sur la place.
Alors, juste une aparté, parce que Valérie et Jean-Raphaël Essay, ça seront là le 7 décembre.
Oui. Et donc, voilà pour cette association. Et j'ai rejoint aussi l'association de Paola Nigi, qui est une association merveilleuse de chants populaires italiens, et on fait de la transmission orale. Donc tous les chants qui sont chantés en Italie par une chorale de femmes, beaucoup de femmes, et on les reprend pour qu'ils perdurent et qu'ils soient pas oubliés.
Voilà. Et toi, tu as transmis ça à tes enfants, cette italianité?
Oui,
ça
complètement.
Se traduit comment?
Ça se traduit qu'ils comprennent très bien l'italien.
Ouais. Toi aussi, tu as repris, je crois, des cours d'italien.
Oui, je comprends.
Est-ce
très bien. Je vais chaque année quasiment dans la famille.
À Pontremme, Olivier?
À Pontremme, ouais, j'ai besoin. Et donc voilà, moi j'ai réappris l'italien, même si je ne suis pas du tout bilingue, mais je comprends, je parle.
On en a discuté un petit peu hors antenne. Accroché à la maison familiale, au repas du dimanche, le dimanche midi.
Alors moi je suis pleine de traditions
ouais.
qui ne doivent pas changer. J'habite dans la maison que mon grand-père a construite. Et j'en suis très fière. Elle est très compliquée, mais je l'aime parce que les murs sont énormes, le wifi ne passe pas, enfin bon, j'ai plein de... Mais j'aime cette maison et tout ce qu'elle dégage.
Le dimanche midi, c'est les repas familiales.
Tous les dimanches.
À l'italienne.
Ouais, exactement, où toute ma famille vient, où on essaye de se voir le plus souvent possible, en clan des Siciliens.
Ouais. C'est sympa parce qu'en plus, avec toi, le fait de revenir un peu au Verblanc Rouge, tu l'as retransmis...
Exactement.
Finalement, à ta mère.
Exactement.
Hein,
à ma mère, à mon père et oncle et tante.
Ouais.
Alors, avec ma chorale, qui s'appelle Sono Solo Canzonette, dirigée par Paola Nigi, nous faisons un concert au Totem, dans le 11e de mémoire, samedi 6 décembre à 17h. Donc voilà, et nous serons aussi à Florence au mois d'avril.
Alors le dernier mot, Eliane, c'est...
Alors le dernier mot, c'est je suis très fière que Nathalie nous ait ramenés dans cette famille italienne qu'on ne connaissait pas. Enfin, que moi, en tout cas, je connaissais vraiment très, très mal. C'était vraiment un échange à Noël ou au jour de l'an pour dire « Va bene, et non è malata, la zia, et non è malata, et va bene. » Donc, c'était tout. Alors là, ça nous a rapprochés de cousins incroyables qu'on adore et avec qui on a vraiment des affinités étranges. Et c'est formidable. Ça, c'est formidable.
Merci. Il faudrait presque revenir hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a quelque chose à faire aussi ensemble. On va écouter Domenico Modugno qui nous chante voilà. Grazie mille. Grazie mille.
Grazie mille.
Stare lassù e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare lassù.
Info ciné et littéraire avec Alain Amengual.
Oui, bonjour à tous. Donc, pour vous rappeler la sortie de cette bande dessinée, ce roman graphique qui s'appelle Un dragon en forme de nuage, qui est réalisé d'après le dernier scénario de Ettore Scola qu'il n'a pas réussi à sortir. C'est un film qui devait se passer à Paris avec Gérard Depardieu. Et finalement, pour diverses raisons, ça n'a pas été possible. Et c'est devenu une magnifique bande dessinée, dessinée par Ivo Milazzo. La fille de Ettore Scola avait participé, c'est Silvia Scola. Et ce livre, je vous le conseille, c'est une bande dessinée donc, qui s'appelle Un dragon en forme de nuage. Ça se passe sur l'île Saint-Louis, un libraire de l'île Saint-Louis. Et donc à commander ou acheter dans une des deux librairies italiennes de Paris. Autre chose, on fête les 50 ans de la disparition, de l'assassinat de Pasolini. Stefano Palombari à Paris a traduit ce livre de Roberto Carnero qui s'appelait « Mourir pour les idées »,« Mourir pour des idées ». Et il viendra nous le présenter dans notre prochain ciné-club de décembre qui sera probablement le 5 décembre. Et on avancera un petit peu la date pour qu'il présente son livre à 19h30. Autre chose, dimanche, au 7 Parnassien, Francesca Pesce, d'origine italienne, présente des films. Aujourd'hui, le 16 novembre, c'est Il bel Antonio, donc c'est ce film avec le beau Marcello, qui malheureusement est impuissant, donc c'est le contraire du Latin Lover. Et il épouse la belle Claudia Cardinale, mais... tout ce qu'il avait réussi à faire avant à Rome, quand il revient en Sicile, malheureusement, il a quelques problèmes. Voilà. Je vous donnerai les autres programmes. Également, en partenariat avec l'Institut culturel italien, le cinéma L'Entrepôt présente des films restaurés et des films d'actualité. Rocco et ses frères de Visconti, le 5 décembre. Europe 51 de Rossellini, le 6 décembre. Le chemin de l'espérance de Pietro Germi, ce sont des immigrés qui partent dans la montagne, qui traversent les Alpes à pied pour venir s'installer en France. Ça, ce sera le 7 décembre, le vendredi 12. C'est La classe ouvrière va au paradis, un film politique d'Elio Petri. Le 13, Le terroriste, c'est un film sur la résistance à Venise d'ailleurs, de Gianfranco De Bozio. Et enfin, le dimanche 14, Le disque rouge de Pietro Germi. À suivre également en salle actuellement le film de Gianfranco Rosi qui s'appelle, qui était à Venise, Pompei sotto le nuvole. Gianfranco Rosi, c'est un cinéaste de films documentaires qui avait commencé par un documentaire sur le périphérique de Rome qui s'appelait Sacro Graal. Tous les gens qui vivent autour, qui sont plus ou moins des laissés pour compte. Il a fait l'équivalent aux États-Unis avec un film qui s'appelait Below Sea Level. Ce sont des gens qui vivent dans des caravanes. Il a fait aussi sur Fukuyama et sur les migrants qui arrivaient à Lampedusa. Et là, il vient de sortir son dernier film qui s'appelle Pompei sotto le nuvole, Pompei sous les nuages. Bon, il y a un petit peu le risque de ce Pompei et c'est un voyage dans la Napoli souterraine. Autre chose, on a la grande surprise d'avoir à la Cinémathèque un cinéaste italien, Mario Martone. Et Mario Martone, le dernier grand film qu'on ait vu de lui, c'était le Leopardi avec Elio Germano. Et là, ils font une rétrospective en sa présence de tous ses films. On pourra voir Mort d'un mathématicien napolitain, Teatro di Guerra, son dernier film Qui rido io sur Scarpetta, qui est le père de Eduardo De Filippo, Fratelli d'Italia, le Leopardi, Nostalgia, et la Cinémathèque offre à nos auditeurs un tarif réduit à 4€ avec un mot de passe qui est Cappuccino Martone. Vous pouvez réserver sur le site de la Cinémathèque, directement sur le site avec le mot de passe et aux caisses également, mais là il faut bien préciser qu'il s'agit d'un partenariat avec Cappuccino sur Aligre FM. Voilà, 4€ au lieu de 7€, en présence de Mario Martone et tous les films en présence de Mario Martone. Suivez également le programme de l'Institut culturel italien et lundi 1er, ils recevront Huguette Atem qu'on avait reçue ici, qui elle a traduit Pirandello, Eduardo De Filippo, Goldoni, etc., etc. Grande actualité, allez-y tous, profitez-en.
Merci. Ciao. Alain.
Michel.
Oui, alors rapidement, on s'excuse encore pour les problèmes techniques. On remercie Enrico Massogiovanni parce que c'est un peu compliqué, mais l'important c'était de faire l'émission. Et on se retrouve quand ?
Mais dimanche prochain, Michel.
À quelle heure ?
La stessa ora.
Benissimo. Et puis on sait que maintenant on peut réécouter l'AFM avec Aligre. Ciao.
Allez, buona domenica a tutti. Ciao, Enrico.